Nous allons aborder une épître peut-être complexe, mais qui apparaît du fait justement de sa complexité très riche, intéressante, enrichissante. Il s'agit de l'épître de Paul aux Hébreux. Alors, il semblerait quand même à la lecture que ce ne soit pas peut-être une épître, c'est-à-dire une lettre envoyée par quelqu'un à une communauté. Parce qu'en fait, c'est très développé sur des points de doctrine, mais il y a aussi de temps en temps des exhortations, des avis, des conseils, presque des menaces. Donc, ça ressemblerait aussi peut-être à un sermon. Alors déjà, premier point, la forme de ce texte, je ne sais plus très bien si c'est vraiment une épître, ou si c'est vraiment un sermon, ou si vous voulez, une thèse, un traité, une somme sur notre doctrine chrétienne. Premier point. Deuxième point, je me pose la question, et il n'y a pas que moi qui me la pose, c'est qu'on ne sait pas très bien si c'est Paul qui est évidemment donc l'auteur. On pense à Luc, on pense à Barnabé, à Apollos, à Silas, à Priscille même, et même à Jacques et à Jude. Donc je ne sais pas. Alors peut-être que vous aurez des possibilités de nous éclairer sur ce point. Alors voilà, est-ce que vous pouvez déjà répondre à ces deux points?
Premier point. Cette lettre commence comme une prédication et finit comme une lettre.
Oui, c'est que les dernières lignes. Je vais bien revoir.
Quand elle commence comme une prédication, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune salutation, l'auteur n'est pas nommé. Si je prends les épîtres de Paul, c'est à Philémon qui est juste avant. C'est Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, etc. Et puis il y a des salutations, il y a tout un ensemble de choses. Là, dans Hébreux, il n'y a rien du tout. Mais par contre, si on regarde la fin de la lettre, il y a quand même « Priez pour nous ». Je veux vous revoir rapidement, je vous exhorte, sachez que notre frère Timothée a été remis en liberté, d'Italie vous salue, saluez tous vos conducteurs. Donc on suppose qu'il y a des gens qui sont connus quand même, et ça finit un peu comme une lettre.
Voilà,
donc,
ça finit comme une lettre.
On peut penser que c'est quelqu'un qui a une manière très particulière d'écrire, qui a peut-être pensé à une prédication, à une homélie qu'il a retenue, ou une ou plusieurs homélies, qu'il est là ou qu'il les a retenues, de fait qu'il les a écrites, et qu'il les a écrites à des gens qu'il connaît, mais qui a jugé bon qu'il ne fallait pas faire les salutations d'usage comme les faisait Paul, ou comme les ont faites Pierre, Jacques, Jude, Jean, etc.
Vous dites qu'il peut y avoir plusieurs sermons, et ça paraît vrai, parce que parfois on a l'impression qu'il y a quand même des répétitions, on revient un peu sur certains thèmes. Alors c'est peut-être aussi un effet pédagogique. Pour que le clou rentre, il faut taper plusieurs fois.
Oui, hein, il y a des répétitions et des ruptures.
Et des ruptures.
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des enclaves, au chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au chapitre 4, verset 13, il parle du repos avec 10 fois le mot repos. On se demande bien pourquoi est-ce que tout à coup il y a une enclave, et on peut penser que la personne avait peut-être fait une prédication sur le repos, en plus ça qu'il avait écrite, et donc il la ressort comme faisant partie de cette compilation.
Alors ces épîtres, alors là c'est une question générale, étaient-elles lues publiquement, parce que tout le monde ne devait pas savoir lire.
Elles étaient lues publiquement. Je me souviens par exemple de cette exhortation que l'apôtre Paul fait aux Colossiens, au chapitre 4, à propos de la lettre qu'il écrit. Il dit au verset 16 du chapitre 4, « Quand la lettre aura été lue parmi vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'Église des Laodicéens, hein, et vous aussi lisez celle qui viendra de Laodicée. » Donc ça montre qu'il y a des lettres
qui circulent,
que Paul a écrites à Laodicée, mais que sa lettre à Laodicée n'a pas été retenue dans le canon, ce qui est intéressant. Et puis ça montre aussi que donc, ces lettres étaient lues, effectivement, et circulaient parmi les chrétiens.
Oui. Alors, et sur l'auteur?
Alors, sur l'auteur, le deuxième point, personnellement, j'opterais plutôt pour Barnabé ou Barnabas.
Oui.
Mais c'est tout à fait gratuit, j'ai pas fait un travail de fourmi, j'ai fait un certain travail, mais qui n'est pas un travail de fourmi. Je ne suis pas un spécialiste de l'Épître aux Hébreux, je suis plutôt un homme de la Bible. Donc, voilà pourquoi je pencherai pour Barnabas ou Barnabé. Il y a deux indications majeures pour l'auteur qui nous sont données. C'est au chapitre 2 et au verset 3 et 4, où il est question de ce qui a été annoncé par le Seigneur Jésus et confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Autrement dit, il y a une tradition apostolique dont parle l'auteur et de laquelle il ne fait pas partie, alors que Paul fait partie de ceux qui ont entendu. Voilà. L'auteur vient, à mon sens, après cette tradition apostolique de laquelle il se réclame, parce que c'est quand même la parole apostolique qui retentit, qui a rôle de parole de Dieu. En Colossiens 1:25, on sait que Paul a comme ministère de compléter la parole de Dieu. Donc Paul, et puis après Jacques et Jude, les frères du Seigneur, Pierre et Jean. Jean, le frère de Jacques, qui était mis à mort en 44 en acte 12 par Hérode, et puis Pierre, donc sont des gens qui ont complété la parole de Dieu, mais il y a une tradition apostolique de personnes qui ont été près du Seigneur Jésus et qui ont reçu ses paroles. Cette personne-là, non, elle n'est pas près du Seigneur Jésus. Donc c'est vrai que, par exemple, quand on parle d'Apollos, alors c'était Luther qui a proposé au XVIe siècle Apollos comme rédacteur. Quand on parle de Luc, qui était le secrétaire de Paul, et qui a donc écrit l'Évangile et les Actes, alors pourquoi pas? Il me semble que Luc n'est pas juif. Luc n'est pas juif, il est appelé en acte 1, quelqu'un quelqu'un qui ne connaît pas, en fait, la langue, qui est vraiment quelqu'un des nations. Voilà, c'est acte 1, verset 19. Luc écrit que le champ dans lequel Judas est pendu est appelé dans leur propre dialecte. Donc en fait, il montre que ce n'est pas son dialecte, celle d'Amar, que l'hébreu n'est pas son dialecte. Et donc Luc n'est pas un juif, il n'écrit pas en hébreu, et peut-être qu'il n'est pas placé pour écrire ce genre de choses. Apollos, donc il en est question en acte 18, et là aussi on voit que c'est un homme puissant, éloquent, puissant dans les Écritures, et qui démontre que Jésus est le Christ, mais Apollos est peut-être quelqu'un qui n'est pas spécifiquement, au départ comme Barnabas, qui lui est venu prendre, il est parmi les Juifs, il est venu prendre Paul, et il est appelé fils de consolation. Autrement dit, Barnabas veut dire fils de consolation, il console les Juifs. Et il me semble que le message d'Épître aux Hébreux, c'est un message de consolation. Une dernière chose dans Hébreux, c'est que il est dit à la fin de la lettre, ou de l'homélie, il est dit que, verset 23 du chapitre 13, que notre frère Timothée a été mis en liberté. On voit la proximité de cet auteur avec Timothée. Timothée était celui qui était avec Paul. Barnabas était avec Paul dans son premier voyage et Paul a pris Timothée dans son deuxième voyage. Il ne me semble pas que Timothée... Il n'est pas dit que Timothée ait été en prison du temps où Timothée était avec Paul. Ce qui me permettrait de dater la lettre aux Hébreux, mettons, après 64 et avant 70, avant la destruction du Temple. Et après, cette lettre que Paul envoie à Timothée, alors que Paul est en prison et que Timothée n'est pas en prison. Donc je mettrais peut-être la lettre aux Hébreux, même entre 67 et 70, 67 étant la date supposée de la mort de Paul, et 70 de la destruction du Temple. Pourquoi la mort de Paul? Parce qu'à la mort de Paul, je pense que les Juifs se posent beaucoup de questions concernant le royaume de Dieu, et la destruction du Temple, parce que justement, tant que le Temple est là, alors la grande question, c'est qu'est-ce que les judéo-chrétiens doivent faire du Temple? Est-ce qu'ils doivent respecter les sacrifices, etc.? Et donc, l'auteur répond de manière assez complète à cette question.
Alors, vous avez déjà un peu répondu à la prochaine question, mais on va quand même approfondir. À qui est destinée cette épître? On va dire épître, puisque c'est le terme reconnus. Usuel. Hein, effectivement, parce qu'on peut se demander, est-ce que ce sont quand même des juifs tout simplement qui sont judaïsants, ou des juifs qui croient pas, ou est-ce que c'est des juifs qui ont été convertis, ou des gens des nations? Parce qu'alors, s'ils ont été convertis, pourquoi s'inquiètent-ils autant des pratiques de la religion juive? Il devrait avoir eu une rupture, et là, il n'y aurait pas une rupture, puisque ça se pose encore des problèmes.
Tout d'abord, il faut dire le plus simplement possible que être juif, c'est deux choses. Être juif, c'est faire partie de la nation d'Israël,
oui.
Hein, et oui. Avoir la religion cultuelle, le culte d'Israël, le culte israélite. Mmh. Autrement dit, le judéo-chrétien, il a le culte chrétien, mais il a l'appartenance nationale au peuple juif à qui des promesses ont été faites.
Oui,
et donc, c'est là où, où si on ne tient pas compte de ces deux choses, alors on a du mal à comprendre. Dès qu'on comprend que le judéo-chrétien n'est plus dans le culte, en fait, juif, mmh. mais que le culte juif est lié à la nation, parce que Dieu avait demandé à la nation d'avoir un culte.
Mmh.
Et donc, si on comprend ça, alors on comprend que cette lettre est destinée à des judéo-chrétiens, qui sont à la fois, comme dit le chapitre 3 et le verset 1, des frères saints, c'est-à-dire qui ont été sanctifiés,
oui.
qui sont saints en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ.
On en parlera.
Voilà, il est dit qu'ils sont participants à l'appel céleste, ils sont nés de nouveau, ils sont chrétiens, mais ils disent considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Et là, il me semble que c'est de la confession israélite, c'est-à-dire de cet appel des Juifs à être une nation. Et donc, Jésus étant le souverain sacrificateur, autrement dit, Jésus étant le dernier médiateur qui vient aboutir à la suite de la lignée aaronique.
Donc, ce sont des Juifs chrétiens.
Ce sont des Juifs chrétiens, oui.
Voilà. Alors, on peut commencer déjà maintenant à passer un peu à analyser dans le texte. Dans le premier chapitre, au moins jusqu'au verset 14, on voit l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Mais c'est manifesté par les anges, c'est manifesté par les prophètes, il y a les Écritures, bien sûr, mais aussi et surtout par l'incarnation du Fils, de Jésus, qui, évidemment, a été parmi les hommes, il leur a parlé directement, c'est la révélation du Fils. Et de plus, l'auteur insiste sur la pérennité du Fils. Il est de tout temps. Il a participé à la création, il est préexistant, et après son sacrifice rédempteur, hein, il est mort, hein, et la résurrection, il est dans la gloire du Père. Il y a donc la parole et le sacrifice. Et on retrouve ça d'ailleurs dans certaines confessions, dans la liturgie de certaines confessions, ces deux parties, la parole et le sacrifice. Il est donc le Fils reconnu du Père, son héritier unique, il est reconnu comme ça, du monde et de tous les êtres, même du monde invisible. Alors, il est évidemment la vraie révélation, l'aboutissement, le véritable Messie.
Oui, il est le véritable Messie, et peut-être qu'il faut donner un sens au mot Messie. Parce que souvent, quand on parle du Messie, on a l'impression que c'est celui qui devait venir, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Messia ou Machia en hébreu, comme Christos en grec, veut dire « oint ». Autrement dit, c'est celui qui a été choisi par Dieu pour quelque chose de particulier. Le Messie, c'est pas celui qui devait mourir pour nos fautes. Le Messie, c'est celui qui devait régner sur Israël. Et c'est celui qui va régner sur Israël. Autrement dit, quand Jésus est appelé le Christ, quand les Juifs demandent à Jésus dans l'Évangile, « Mais si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Il dit, « Je vous l'ai dit. » Et donc, Jésus, vous avez tout à fait raison, dans ce premier chapitre, est montré comme le Christ. C'est ce qui est au centre de la révélation de Jésus. Je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit, il est éternel, il est, etc. Mais il est dit au verset 9, au verset 8 et 9, « Ton trône, ô Dieu, donc on voit qu'il est Dieu, est au siècle des siècles, donc il est question d'un trône. Et puis, c'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne, donc il y a le bâton de commandement. Et il est dit, « Tu as aimé la justice et haï l'iniquité, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. » Autrement dit, tu as été choisi au-dessus de tes compagnons, donc au-dessus des Juifs, pour être roi.
Voilà, donc c'est la question qui suit. Là, vous venez d'énumérer tous les symboles de la royauté. Le trône, le sceptre, la justice, l'onction. Donc le Fils possède effectivement tous les attributs de la royauté. Il est roi. Et son royaume, son peuple, va-t-il se trouver où?
Alors son peuple, bien, c'est le peuple d'Israël. Il sera dans la nation d'Israël dont les frontières sont bien définies, et Jésus sera le Messie en Israël, qui est le lieu, le royaume. Lui sera le roi et ça aura lieu pendant le règne.
Jésus, roi, on le comprend, mais est-ce qu'il règne déjà? Et s'il règne, on peut se demander la question, poser la question où? Et s'il ne règne pas encore, comment ça va se passer? Comment va-t-il justement venir régner?
Au chapitre 2, à propos de Jésus et au verset 9, il est dit que nous ne voyons pas, fin de verset 8, que toute chose lui soit soumise. Autrement dit, nous ne voyons pas qu'il règne encore. Et on voit qu'il a été pour l'instant couronné de gloire et d'honneur à cause de sa mort. Oui. Mais il sera couronné de gloire et d'honneur à cause de son règne. Mais pour l'instant, il ne règne pas encore. Et donc, justement, tout le thème de la lettre, c'est cette tension pour ces gens qui sont des juifs, parce qu'ils appartiennent à la nation d'Israël, et qui est occupée par le pouvoir romain, mais des chrétiens parce qu'ils sont dans le culte chrétien, ayant reconnu que Jésus est mort pour leur faute, et ils ont été réconciliés avec Dieu, et ils ont à vivre la vie ecclésiastique, la vie d'église. Et donc ces gens-là disent, mais alors, nous en tant que juifs, on appartient à la nation, et quel va être le devenir de notre nation? Est-ce que Jésus va venir régner sur nous comme nation? Est-ce qu'il faut qu'on l'attende régner? Et si on perd ce côté du règne de Jésus en tant que nation, alors peut-être que nous, on préfère redevenir juifs. Hein, parce qu'on voudrait vraiment que Jésus vienne régner. Vous voyez, donc il y a cette tension entre le christianisme et le judaïsme. Et l'Épître aux Hébreux, c'est son thème, c'est de regrouper ces deux aspects, mais en montrant qu'un royaume viendra. Au chapitre 13, il y a une expression qui est très touchante, très, très intéressante. Hein, au chapitre 13 et au verset... chapitre 12, verset 28... 12, verset 28, « Recevant un royaume inébranlable. » Alors voilà la perspective du royaume qui va venir. Oui. « Retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu. » Autrement dit, la grâce, c'est le culte chrétien. Et le royaume, c'est l'aspect politique du point de vue du judaïsme, mais bien sûr aussi du point de vue du christianisme, parce que Jésus va venir régner.
Oui, alors en fait, vous avez parlé de que le Christ est dans la gloire auprès du Père. Cette gloire vient effectivement par sa mort et sa résurrection.
Voilà.
Donc, pour l'instant, il est auprès du Père. Et d'être auprès de Père après cet événement douloureux et cet événement surprenant qu'est la résurrection et qui est la base de notre foi, hein, Saint Paul le dit suffisamment, et plusieurs fois, c'est la reconnaissance du Père.
Oui.
Hein, c'est ça. Alors, pour revenir quand même sur la royauté, est-ce qu'on en reparle dans notre chapitre ou est-ce que c'est un des thèmes de l'Épître aux Hébreux?
C'est, on pourrait dire, le thème central de l'Épître aux Hébreux avec la question de la royauté, de la sacrificature et de la personne de Jésus qui est au centre de la relation à la fois du chrétien avec Dieu, mais aussi du judéo-chrétien avec Dieu. Donc le thème, c'est Jésus est mieux que tout, et si on fait un parcours très... un survol du survol d'Hébreux, on voit au chapitre 1 et 2 que Jésus est meilleur messager que les anges, au chapitre 3 que Jésus est meilleur sur la maison que Moïse, Moïse était intendant, mais Jésus est fils, voilà. Au chapitre 4 que Jésus est meilleur que Josué, dans le repos qu'il donne au peuple Israël, il faudra expliquer tout pourquoi,
oui, oui, bien sûr.
Hein, que Jésus est meilleur sacrificateur qu'Aaron, au chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, au chapitre 7 et 8, 7 à 10, que Jésus apporte une meilleure alliance que l'alliance qui a été apportée par Moïse, avec de meilleurs sacrifices que ceux que les sacrificateurs apportaient, et finalement, il offre une meilleure liberté et une capacité à s'approcher. Donc l'aspect de la royauté est un des aspects, mais c'est l'aspect central, parce que du point de vue politique, les Juifs attendent que Jésus vienne régner. Du point de vue individuel, le point de vue politique, c'est le point de vue collectif. Du point de vue individuel, les judéo-chrétiens, les Juifs, les judéo-chrétiens attendent d'être réconciliés avec Dieu, et ils le sont, bien sûr, définitivement, par l'œuvre de Jésus-Christ.
Oui. Et vous avez fait une citation, nous ne voyons pas encore que tout lui a été soumis. Alors, est-ce qu'on est aveugle? Est-ce qu'on est sourd? Que nous manque-t-il pour comprendre? Ou est-ce que tout simplement, il faut patienter? Vous comprenez? Je veux dire,
Oui,
c'est nous
oui.
qui sommes incapables de comprendre, ou est-ce que, bon, il
Oui.
faut attendre?
On va déjà dire dans un premier temps que c'est absolument clair que Jésus ne règne pas aujourd'hui. Si Jésus pouvait éventuellement régner, ça serait en nous-mêmes.
À nous-mêmes,
Mais
voilà.
je ne sais pas qui pourrait dire que Jésus règne en lui. Ça me paraît un peu délicat. Que quelqu'un dise qu'il voudrait que Jésus règne en lui, oui. Mais moi, je ne vais pas dire Jésus a toute la place, la première place, et il est le chef, et je ne lui désobéis jamais. Voilà, pour moi, ça, c'est déjà
Vous
une chose.
avanceriez là.
Voilà, absolument. Ensuite, donc, du point de vue politique, Jésus ne règne pas, et Jésus régnera. Hein, par exemple, il y a des expressions qui sont tout à fait carrées. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 23 et 24, il nous est dit, il faut qu'il règne. Dans 2 Timothée 2, 11, il nous est dit, si nous souffrons, nous régnerons avec lui. Dans Apocalypse 2, verset 26-27, où le Seigneur Jésus s'adresse aux chrétiens, il dit à celui qui vaincra, qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations et il les paîtra avec un sceptre de fer, comme cela m'a été donné de mon Père. Autrement dit, on comprend que Jésus-Christ va venir régner, il va venir avoir une puissance politique. Et il sera, comme nous dit 2 Timothée 4, le roi de ceux qui règnent, ou comme nous dit Apocalypse 17, le roi des rois.
Le roi des rois, oui,
Voilà, donc
expression.
que Jésus soit roi et soit appelé à être roi, c'est clair, et que nous ne voyons pas encore Jésus régner, c'est également clair. Voilà déjà une réalité.
Donc, il faut attendre. Il y a une attente
Alors,
pour.
après, dans ce que vous avez dit, il y a autre chose, et vous dites. Quelle est notre responsabilité dans le fait qu'ils ne viennent pas?
Oui.
Hein, voilà. Alors, il me semble que on peut répondre de manière un peu différente à cette question. La première manière de répondre, c'est que Jésus viendra quand ça sera le moment, et un moment qui est absolument indépendant de notre responsabilité. Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut, et il à d'une part l'obéissance de la part du Père, où c'est, comme nous est-il dit dans le livre des Actes au chapitre 1er, que c'est le Père qui sait le jour et l'heure, hein, et les temps et les saisons pour que le royaume vienne. D'autre part, Jésus viendra comme roi, et on voit par exemple dans des passages comme la fin de Zacharie 12, comment il faut que le peuple d'Israël soit, comment dire, prêt à le recevoir, avec des expressions en Zacharie 12 qui sont très très touchantes, où, avec cet avènement du Messie qui est montré, il est dit, ils regarderont, verset 10, vers moi. Il est dit, ils se lamenteront sur lui. Il est dit, il y aura une grande lamentation et chaque famille se lamentera, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part, et leurs femmes à part, etc. Et donc on voit qu'à ce moment-là, il y aura dans le peuple d'Israël une volonté vraiment que le Messie règne, qui sera claire. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'Israël est plutôt un pays laïque. Il y a vraiment des religieux, il y a des gens qui attendent le Messie, mais le peuple d'Israël qui est revenu dans sa terre en 1948-49, est-ce que c'est un peuple sioniste, politique, ou est-ce que c'est un peuple vraiment qui attend son Messie et qui revient? Je ne vais pas répondre à ça, mais je veux dire que dans la question sommes-nous responsables du moment où Jésus reviendra, je dis premièrement Dieu est souverain, deuxièmement il y a un peuple qui doit attendre et qui fait que le Messie viendra ou ne viendra pas, et troisièmement, alors il y a un autre passage qui est en Romains 11, 25, où il est dit que le Messie viendra quand toutes les nations seront entrées. Alors c'est une expression un peu curieuse, Romains 11, verset 25, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Autrement dit, soit entrée dans quoi? Alors il me semble que c'est entrée dans le salut, dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ qui est sauveur. Et quand les nations seront entrées finalement dans cette relation de proximité avec Dieu et intégreront l'Église, l'ensemble de ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ, alors en quelque sorte, le travail de l'Esprit de Dieu dans la terre entière aura abouti à quelque chose, et peut-être que le projet politique de Dieu avec le royaume, avec Israël, reprendra, c'est bien possible.
Oui, alors on continue notre lecture, et au chapitre 2, on dit « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, dont je comprends que ce sont son frère, hein, dont je comprends que c'est Jésus et les hommes. » Mais quel est le sens exact de « sanctifier » ?
Sanctifier, ça veut dire mis à part. Et il y a deux, par exemple, deux classes tout à fait différentes de gens mis à part. Ceux qui sont mis à part, c'est le peuple d'Israël, pour servir Dieu.
Oui.
D'une part, et d'autre part, ceux qui sont mis à part, les saints, ce sont ceux de l'Église. Ceux, les chrétiens qui sont justement appelés saints par Dieu, parce qu'ils lui appartiennent.
Et alors, et Dieu étant saint, ceux qui lui appartiennent sont saints.
Exactement. Et donc, Jésus n'a pas honte de les appeler frères, mais c'est qui l'appelle frère ? Ici, il me semble que c'est le peuple d'Israël sur lequel il va régner, et pourtant ce sont ceux qui l'ont trahi, qui l'ont rejeté, qui l'ont vendu. Il n'a pas honte de les appeler frères. Alors bien sûr, par extension, on peut dire que Jésus n'a pas non plus honte de nous appeler ses frères. Mais Jésus a une relation avec les Juifs qui est différente de la nôtre, c'est qu'il est frère par le sang.
Avec les Juifs. Bien sûr,
alors oui. Qu'avec nous, il est frère, par exemple, l'Épître aux Romains, au chapitre 8, je crois au verset 29, nous dit qu'il est premier-né d'entre plusieurs frères. Autrement dit, nous avons été adoptés. Nous sommes rentrés dans cette famille de Dieu
par
adoption, la famille de Jésus étant les Juifs, mais nous avons été, comme nous dit Romains 11, greffés sur l'olivier.
Donc, adoptés, c'est les nations.
C'est les nations.
Oui. Alors, l'Épître insiste aussi beaucoup sur la supériorité de Jésus sur Moïse, sur Josué, et ainsi de suite. Donc, on démontre que la place du Fils est certainement l'aboutissement, la réalisation de la promesse. Les personnages cités dans l'Ancien Testament ont annoncé cette promesse, mais ne l'ont pas vue. Or là, maintenant, on arrive. Donc, il y a eu réalisation de la promesse, l'alliance de grâce qui est apportée donc par Jésus-Christ, et du fait de sa supériorité, parce qu'on insiste beaucoup, et donc supérieure à l'ancienne alliance.
Oui. Alors, c'est intéressant de reprendre effectivement ce en quoi Jésus est meilleur, pour voir en quoi est-ce que, globalement, l'alliance renouvelée, l'alliance de grâce, est supérieure. D'abord, Jésus est meilleur messager que les anges. Il apporte un message complet, et ce n'est pas, comme nous dit Hébreux 2:5, aux anges que Dieu a assujetti le monde habité, mais c'est à celui qui a été oint, au Christ, qui a été oint pour régner. Jésus est meilleur messager, meilleur aboutissement que les anges. Ça, c'est une chose. On comprend qu'il tient la première place alors que les anges sont des serviteurs. Lui, il est fils de Dieu, alors que les anges sont serviteurs. Jésus, deuxièmement, est meilleur intendant ou meilleur serviteur que Moïse. Pourquoi ? Parce que Moïse était serviteur, mais Jésus, il est fils. Il est fils de Dieu. Il est Dieu manifesté en chair. Donc, il est meilleur serviteur. Troisième chose, ça c'était au chapitre 3, versets 1 à 6. Troisième chose, chapitre 3, verset 7 à chapitre 4, verset 13, Jésus est meilleur pour amener le repos au peuple d'Israël que Josué. Pourquoi ? Parce qu'on voit dans cette section que Josué a bien amené le peuple d'Israël en Canaan, en Israël, dans le pays promis, mais pour que le pays soit en repos, il lui manquait quoi ? Le Messie.
Oui.
Et donc c'est pour ça que Jésus est meilleur que Josué. Ensuite, chapitre 4, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 10, alors Jésus est meilleur que Aaron. Il est de la lignée de Melchisédek, parce qu'il n'est pas tenu, comme ces gens de la lignée d'Aaron, d'apporter des sacrifices pour ses propres péchés, mais lui, n'ayant pas péché, eh bien, il n'a pas apporté de sacrifice. Et donc, il est, en plus de ça, de la lignée de Melchisédek, qui nous dit le chapitre 7 et le verset 3, assimilé au Fils de Dieu. Autrement dit, il y a quelque chose de vertigineux qui nous montre qu'en Genèse 14, quand Melchisédek apparaît, c'est déjà le Fils de Dieu qui est là. Mais à la différence de ce qui se passe après sa naissance de la Vierge Marie, eh bien, quand Melchisédek était là, le Fils de Dieu n'avait pas son corps définitif. Si, je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein.
Oui,
c'était une apparition.
Voilà, c'était une apparition.
Il prenait un corps, mais un corps provisoire. Alors que, après naissant de manière définitive dans le ventre de la Vierge Marie, alors il prend son propre corps et qu'il gardera éternellement.
Oui, alors puisqu'on est sur Melchisédek et qu'on régnera selon l'ordre de Melchisédek, vous dites que c'est une préfiguration de Jésus. Mais alors, quel était son rôle ?
Eh bien, son rôle, au moment où Abraham vivait, c'était d'être sacrificateur, c'est-à-dire intermédiaire. Intermédiaire entre Dieu et les hommes. Autrement dit, les hommes qui voulaient accéder à Dieu pouvaient le faire par l'intermédiaire de Melchisédek. Et justement, en Genèse 14, qu'est-ce que fait Melchisédek ? Il fait amener du pain et du vin.
Et du vin. Alors, vous avez dit à plusieurs reprises que Jésus était supérieur aux anges, que les anges étaient les serviteurs du Fils et probablement du Père. Mais quel est leur rôle exact ? Et puis surtout, aussi, il existe aussi des mauvais anges.
Hébreux 1, 14 nous dit qu'ils sont des esprits, donc ils n'ont pas de corps propre. Ils peuvent prendre un corps, mais ils n'ont pas de corps propre. Et qu'ils sont des esprits qui servent et qui administrent en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Autrement dit, ce sont des gens qui peuvent être hommes au milieu des hommes et qui vont aider les hommes et les hommes qui vont hériter du salut, autrement dit les croyants.
Donc ça peut être un croyant qui aide un autre croyant.
C'est pas un croyant, c'est un esprit.
C'est un esprit.
Mais qui prend un corps.
Qui prend un corps, voilà. Qui se présente comme un bon croyant,
voilà.
Et qui peut aider.
Et au chapitre 13, il est dit, quelques-uns, chapitre 13, verset 2, quelques-uns à leur insu ont logé des anges.
Oui.
Et il fait certainement allusion à Abraham qui reçoit l'Éternel avec deux anges. Hein, ou bien aux parents de Samson, Manoah et sa femme, qui ont accueilli un ange qui allait leur révéler qu'elle enfanterait.
Donc ils servent aussi d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, on peut dire.
Oui, mais surtout pour le message.
Pour le message. Hein,
et puis pour les aider à différentes choses. Alors quant aux mauvais anges.
Attendez, on reste peut-être sur les bons pour l'instant. Hein, il y a une très belle phrase qui dit en fait qu'ils sont devenus des vents pour répandre la parole et des flammes pour éclairer le monde. Je trouve ça très beau.
Oui, c'est joli, oui.
Bon, alors les mauvais, oui.
Alors pour les mauvais anges, dans Hébreu, à mon souvenir, il n'en est pas vraiment question, les choses ne sont pas développées. Dans d'autres lettres, on l'a, dans Jude par exemple, où on voit qu'ils sont sortis de leur origine. Et de ce fait, ils sont réservés au jugement. Et ça fait partie du monde, ça constitue le monde démoniaque, qui sont nos adversaires, mais qui sont soumis à l'autorité de Dieu. Autrement dit, j'en profite pour dire qu'il ne faut pas avoir peur des démons ou de Satan, mais que dans la mesure où on est sous l'autorité de Dieu, alors tout va bien.
Vous avez parlé de maison. Alors, on peut se poser la question, quelle est cette maison ? Alors, ça fait penser évidemment tout de suite que la maison a été élevée par un constructeur et qu'il y a aussi un ou des habitants. C'est clair, bien sûr. Mais ça fait penser aussi que la maison peut être construite sur le roc et que certaines maisons peuvent être construites sur du sable. Alors, Dieu est-il le bâtisseur et Moïse le locataire ? Dans la supériorité de Jésus sur Moïse, puisque Jésus étant le fils du constructeur, du maître, ça explique évidemment sa disons, supériorité sur le locataire. Alors, comment expliquer cette question-là?
La maison, c'est le peuple d'Israël. C'est pas les chrétiens. C'est pas l'Église. Donc, là, c'est le projet national de Dieu. Et au chapitre 3 et au verset 6, il est dit, donc Christ est comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison. Nous, c'est qui? C'est l'auteur et les Hébreux. Et il dit, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Autrement dit, si Hébreux est bien écrite entre 67 et 70, le temple est encore là, il y a encore, avec Hérode, enfin je ne sais pas qui est roi à ce moment-là sur Israël, il y a encore, dans l'Empire romain, il y a encore une royauté, il y a encore une nationalité juive qui est claire, et l'avenir d'Israël est un avenir très incertain. Et nous sommes sa maison, si du moins. Donc la maison, c'est le peuple d'Israël.
C'est le peuple d'Israël. Alors, on peut passer au chapitre suivant, où dans ce verset, le chapitre 3, il y a surtout une exhortation à rester fidèle au Seigneur, sinon on n'entrera pas dans le repos. Alors, ce repos désigne-t-il l'entrée pour les Juifs en terre promise, comme ça était le cas? Ça représente le repos dominical, Dieu s'est reposé le septième jour de la création, la situation après notre mort, ou l'entrée dans un royaume?
C'est l'entrée dans le royaume, et il faut donner quelques précisions qui sont assez simples. C'est que Israël est déjà dans la terre promise. Mais qu'est-ce qui manque pour que le pays soit en repos? Il manque le roi. Autrement dit, en Angleterre, il y a un royaume parce que la reine Élisabeth, c'est la reine. Et donc, le pays qui est un royaume mais qui n'a pas de roi, alors c'est pas un royaume. La nation s'appelle royaume parce qu'il y a un roi et un roi qui règne. Jésus, le Messie, n'est pas encore venu pour régner, donc le pays n'est pas en repos. Et Josué a introduit le peuple d'Israël dans la terre promise, mais à cause de l'incrédulité du peuple, alors le roi n'est pas encore venu. C'est ce que dit le chapitre 4. Verset 2, déjà à l'égard de ceux qui ne sont pas entrés en Canaan, en Israël, ils n'ont pas eu la foi pour entrer. Mais ensuite, il est dit que, verset 8, si Josué leur avait donné le repos, ils n'auraient pas parlé après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Autrement dit, Josué les a introduits dans la terre d'Israël et ils ne sont pas pour autant en repos. Alors, pourquoi ils ne sont pas en repos? Parce que, verset 2, la parole qu'ils ont entendue ne leur a pas servi. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas avec de la foi. Ils n'ont pas eu foi, et donc les fils d'Israël qui n'ont pas leur Messie ne sont pas en repos parce que, certainement à cause de leur manque de foi en Dieu aujourd'hui, le Messie n'est pas revenu. Voilà la compréhension générale du chapitre 4. L'application pratique pour les chrétiens, c'est que c'est dans la foi que nous trouvons le repos en Dieu, mais dans la foi, dans le fait de faire un enregistrement, dans le fait de vivre une maladie, dans le fait de s'être fait voler la moto, etc.
Alors, plus loin, on parle de Jésus, ce grand prêtre, Jésus incarné qui vient de Dieu. Alors, quelle est cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi grand prêtre?
Le grand prêtre, ou grand sacrificateur, hein, ça dépend des traductions, c'est donc le principal personnage qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes. La sacrificature, c'était l'intermission entre Dieu et les hommes. Elle avait ce rôle d'intermédiaire. Et donc, les gens venaient à Jérusalem et finalement rendaient culte à Dieu par l'intermission des sacrificateurs. Jésus, c'est le grand souverain prêtre. Hein, c'est celui, finalement, qui est venu il y a environ 2000 ans et qui a ce rôle d'intermédiaire et ce seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et de ce fait, nous, les chrétiens, nous n'avons pas d'autre intermédiaire à avoir, mais les Juifs doivent faire de même. Ils doivent comprendre que, finalement, toute la lignée d'Aaron, aujourd'hui, ne sert plus à rien puisque le seul vrai intermédiaire est venu.
C'est donc Jésus. Alors, plus loin, on dit « Vous êtes venu », et ainsi de suite. Alors, comment peut-on venir vers Jésus? Comment peut-on s'approcher de lui et aller vers le Père?
Si on se place du temps de ces gens, si, mettons que cette lettre aux Hébreux était écrite en 67, alors on se souvient que Jésus est mort environ en 28 dans le calendrier, tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Donc 28, 67, ça fait 39 ans après. Donc quelqu'un qui aurait cru en Jésus à 30 ans, il aurait 69 ans, 39 ans après, et peut-être qu'il pourrait s'inquiéter, il pourrait... donc il est venu à Jésus parce que peut-être qu'il l'a vu, peut-être qu'il faisait partie de ces gens qui étaient loin, qui étaient à Jérusalem, qu'il a vu peut-être crucifié, qui a été témoin du fait qu'après, il semble bien qu'il est ressuscité. Donc il a vu ça et il a cru et il a compris que quelque chose d'important s'était fait. Par contre, quelqu'un qui aurait 20 ans en 67, donc né en 47, lui, il n'a rien vu, on lui a parlé, il a lu quelques lettres, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, la lettre qui est lue à Colosse, à l'Odyssée, etc. Et il a entendu dans la bouche des apôtres, avec les écrits de Paul, de Pierre, de Jacques, etc., que Jésus était celui qui sauve, et s'approcher, c'est lire, c'est croire, et c'est dans une relation personnelle avec Dieu, c'est prendre conscience de la réalité de ces choses.
Donc en fait, avoir la foi.
Avoir la foi.
Tout simplement. Enfin, si avoir la foi, c'est peut-être pas toujours très simple, peut-être. Donc ensuite, il est le grand sacrificateur, on peut peut-être effectivement un peu résumer, disons pour le spécifier évidemment dans son rôle, pourquoi il est le plus grand, effectivement, parce qu'il a été le seul reconnu par Dieu, il a été choisi, authentifié par le Père, c'est ça.
Il est le plus grand parce que Alors, la première raison, c'est parce qu'en fait, il est appelé par Dieu. Comme dit le chapitre 5 et le verset 4, « Nul ne s'arroge cet honneur d'être sacrificateur. »
Oui.
Donc la première raison, c'est qu'il est appelé par Dieu. Mais une deuxième raison, c'est quand même ce qu'il est dit au chapitre 7, c'est que, et au verset 26 à 28, où il nous dit qu'il était saint, innocent, sans souillure, et verset 27, « Qui n'est pas journellement dans la nécessité, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir des sacrifices, D'abord pour ses propres péchés.
Oui.
Donc voilà, je crois, l'argument massu où le Fils de Dieu est venu, et il est, lui, celui qui a complètement la sacrificature de la part de Dieu.
Oui, il y a aussi le fait, peut-être, que Jésus, qui a été donc choisi par Dieu, effectivement, est de la tribu de Judas, alors que les autres prêtres étaient
des Lévites, des fils d'Aaron.
Des Lévites. Donc déjà, il y a une mise à part.
Oui.
Une sélection là, qui s'est été faite, une rupture. Hein.
Oui. Et l'auteur le souligne d'ailleurs, à un moment donné, il dit, mais c'est au chapitre 7 et verset 13, il dit, celui à l'égard duquel ces choses sont dites, c'est Jésus, appartient à une autre tribu dont personne n'a été attaché à l'autel. Mmh. Il est un peu compliqué, mais c'est ça. Hein.
Oui, oui.
Jésus est de Judas, donc c'était pas à Jésus de faire ça, mais
je vois une rupture,
il l'a fait, il y a une rupture.
Oui, oui. Puis il y a aussi la notion d'éternité des sacrificateurs du temple, donc ils devaient faire, vous l'avez dit, des sacrifices pour d'abord leur propre péché, puis pour celui des autres hommes, de la communauté, mais ils disparaissaient aussi.
Voilà.
Alors que quand même Jésus, lui, il est grand prêtre, parce qu'il continue, il vit, il y a l'éternité.
C'est ça.
C'est un élément supplémentaire.
C'est ça. Et on peut penser d'ailleurs que dans l'éternité, le fait qu'on voit Dieu dans la face de Jésus-Christ, dans sa personne, sera la complète sacrificature de Christ. Il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est Dieu, il est au milieu de nous et on le voit, et on a accès à Dieu par Jésus.
Oui, puis les sacrificateurs, eux, offraient des choses de la terre, alors que Jésus, il a offert son propre sang, son propre corps.
Voilà.
C'est quand même aussi un qualificatif important pour sa grandeur, et bien sûr.
Et ça, c'est le message des chapitres 7 à 9, où on voit qu'il a apporté donc des meilleurs sacrifices pour une meilleure alliance avec des meilleures promesses. Hein, il y a ces expressions avec ce mot meilleur qui est dit 10 fois dans l'Épître aux Hébreux.
Oui, et puis en fait, effectivement, il y a aussi, par l'incarnation, il s'est fait homme parmi les hommes, donc il a eu un corps comme n'importe quel homme, effectivement, et disons, il a connu la souffrance lui-même, et il est capable de compatir à nos faiblesses morales, physiques, spirituelles, et il peut apporter le salut à ceux qui le choisissent. Il comprend mieux les choses.
Ça, je crois que c'est vraiment dans un des fonds de l'œuvre de Dieu qui a sa grande cohérence, c'est-à-dire que celui qui a vécu comme nous, alors il est effectivement capable de nous comprendre et d'avoir ce ministère d'intermédiaire. Dans l'expression « fils de l'homme » qu'on retrouve dans l'Évangile, le fils de l'homme est amené à juger. Et c'est intéressant de voir que celui qui va juger, il jugera ceux qui n'auront pas reçu la grâce. Tous ceux qui sont au bénéfice de la grâce de Dieu ne seront pas jugés. Mais ceux qui n'auront pas reçu la grâce de Dieu seront jugés. Et celui qui va les juger, c'est le fils de l'homme. Et c'est intéressant de voir comme c'est celui qui aura vécu justement comme l'homme et qui connaît.
Qui connaît, oui, effectivement. Donc là, je crois qu'on a bien défini, évidemment, ce qui pouvait permettre à Jésus d'être le grand sacrificateur, le grand prêtre. Mais alors, il est aussi médiateur entre les hommes et Dieu, ou entre Dieu et les hommes. Est-ce que vous pouvez définir ce rôle de médiateur?
Oui, c'est finalement celui qui fait connaître qui est Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, ce que Dieu nous demande. Et c'est celui par lequel nous connaissons Dieu, le médiateur. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là-dedans ou qu'il faut creuser?
Non, je ne pense pas. Non, sans le médiateur, on comprend que c'est quelqu'un qui se met au milieu, effectivement, entre deux puissances et qui va, évidemment...
Aller. Et on peut remarquer que dans Jean 14, 15, 16, Jésus dit « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Le médiateur s'en va, mais il nous dit « Je vous donnerai le Consolateur, qui est l'Esprit Saint, et il vous dira... » toutes les choses que je veux vous dire. Autrement dit, avec Jésus sur la terre, l'Esprit Saint n'était pas venu, mais l'Esprit Saint étant venu, il est dans la personne de chaque croyant. Donc l'Esprit Saint nous dit tout ce que Jésus-Christ personnellement a à nous dire.
Oui.
Donc la médiation de Jésus-Christ est actuellement effectuée par l'Esprit Saint.
Le changement de sacerdoce entraîne forcément un changement de loi. La loi n'a pas permis l'accomplissement de la promesse, elle n'a donc plus son utilité. C'est le Christ qui prend le relais. Alors pour nous, quelles pourraient être ces nouveautés qui nous sont offertes? Qu'est-ce que ça change pour nous? Les rites seront plus artificiels, il y a eu une purification par un sacrifice du Christ, ça doit bien changer quelque chose pour nous.
Je vais faire une réponse en deux temps. Première réponse, ce passage d'Hébreu, donc chapitre 7, verset 11, jusqu'à la fin du chapitre 7, concerne des judéo-chrétiens qui vivent avant que Jérusalem soit envahie par Titus et que le temple soit détruit et que la nation soit pulvérisée. Donc, ici, ces judéo-chrétiens, il leur est dit, à cause du psaume 110 qui annonçait que Jésus était sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il y a, comme vous l'avez dit, un changement de sacrificature et du fait un changement de loi. Autrement dit, dans la loi qui règle ce que fait la nation, cette théocratie, cette nation, ce peuple dans lequel Dieu va habiter, il y a un changement. Donc cette règle, nous, concerne pas du tout. Elle concerne au moment où ces juifs entendent ces choses, si jamais le Messie vient, alors là, il n'y aura plus de sacrificature selon Aaron, et la loi, elle a été bonne, mais il y aura un changement de choses. Ça, c'est donc une première chose. Deuxième chose pour les chrétiens, qu'est-ce qu'ils doivent faire de ça? Alors, ils doivent se dire que, premièrement, pour le royaume à venir, il y aura également un changement. Il y aura un changement d'intermission. Et on peut entendre dans l'Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 5, qu'en parlant des chrétiens, il est dit que Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Autrement dit, dans la nouvelle alliance, l'Église aura la sacrificature, aura l'intermédiaire entre qui et qui? Eh bien, entre Dieu et les hommes qui vivront, c'est-à-dire Israël et les nations, et qui ne seront pas tous des croyants.
Qui ne seront pas des croyants.
Donc il y aura une nouvelle intermission à faire, et on peut entendre que, eh bien, dans cette intermission, il y a quelque chose d'important. Il y a le fait qu'il y a un rapport entre Dieu et les hommes, et il y a des lois, des règles qui sont à connaître, parce qu'elles nous font du bien. Alors ça, c'est pour le futur. Mais pour aujourd'hui, eh bien, on peut dire, du point de vue politique, si les choses ne vont pas, si on constate que les gouvernements sont corrompus, que ceux qui gouvernent font n'importe quoi, hein, ceux qui vont aux États-Unis dans les grands hôtels, etc. Donc, eh bien, on comprend que tant que le Messie n'est pas là, alors du point de vue gouvernemental, eh bien, il se passe des choses qui ne vont pas bien. C'est boiteux.
Voilà. Alors justement, ça concerne évidemment la collectivité, mais au chapitre 8, quelque chose de très important, effectivement, ça me paraît être le cœur aussi de l'Épître, l'essentiel. Nouvelle alliance, mais aussi, il est dit, c'est dans leur pensée, dans leur cœur que je les inscrirai. Donc Dieu s'adresse à chacun de nous. C'est une relation personnelle de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu qui s'installe. Il se crée une intimité de l'homme et de Dieu, ou de Dieu avec l'homme. Et c'est la foi individuelle.
Alors il ne faut pas oublier que c'est la lettre aux Hébreux.
Oui.
Que c'est la lettre aux judéo-chrétiens. Que c'est la lettre de ceux qui attendent cette promesse. Il est très souvent question de la promesse et de cette incertitude et de cette problématique de ces gens qui sont de la nation juive, mais du culte chrétien, et qui sont un peu entre deux sièges. Et donc, au chapitre 8, la nouvelle alliance, ici, je mettrai dans leur cœur, il s'agit du peuple. Hein, il s'agit de ce que Dieu fera quand ces gens-là, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu comme nous, alors quand ces gens-là seront dans le règne, alors il y aura vraiment une proximité du Messie avec eux. Actuellement, nous, cette proximité, nous l'avons déjà.
Oui, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est ce qui est formidable.
Nous l'a déjà donné.
Parce que moi, je ne suis pas judéo-chrétien, je suis simplement chrétien.
On est deux, voilà.
On est deux. Hein. Donc, cette intimité-là, et c'est écrit, c'est relativement important à la lecture de l'homme d'aujourd'hui.
Absolument.
Et dans notre, en France, aujourd'hui.
Absolument.
Voilà, d'accord. Alors, Hébreu, en fait, est considéré parfois, ça va peut-être vous surprendre, un peu comme un texte subversif. On dit, il supprime l'ancien culte pour établir un nouveau. Et qui change la religion, mon bon monsieur? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Alors, effectivement, c'est une boutade. Hein, mais il faut dire qu'évidemment, les religions ne tiennent que par des codifications, par des comportements, des représentations, des rites institués et immuables, et qui peuvent être vides de sens, ou pire, des sacrifices qui sont renouvelés hein, régulièrement, qui entraînent le rappel des péchés et qui induisent une culpabilité permanente. Hein. Or, Jésus arrive et bouscule ses habitudes. Alors, cette boutade-là, comment vous allez pouvoir nous l'expliquer?
Par le fait que, historiquement, les premiers disciples, en acte 1, n'ont pas compris quand est-ce viendrait le royaume.
Oui, ils l'attendaient. Rapidement.
Rapidement. Et ils ont pressé Jésus, ils lui ont dit, sans ces temps-ci, que tu rétablis le royaume. Paul, en acte 28, prêchait le royaume de Dieu aux Juifs et aux chrétiens. Donc il y avait une attente du royaume de Dieu. Donc la grande question c'est, que va-t-il se passer? Les pères de l'Église parlaient du royaume. Papias, saint Irénée parlaient du royaume. Justin Martyr. Ce royaume ne venant pas, Origène, par exemple, au IIIe siècle, a dit, mais on peut comprendre ce royaume d'un point de vue plus symbolique. Et avec Jérôme au IVe siècle et saint Augustin vers 400, l'Église a décidé que finalement Jésus ne viendrait, comme dit 2 Timothée 4, que pour juger les vivants et les morts. Mais je ne sais pas comment on fait Jérôme et saint Augustin, je n'ai pas peut-être assez lu sur eux, mais dans 2 Timothée 4, il est justement dit que Jésus va venir juger les vivants et les morts, 2 Timothée 4, verset 1, par son apparition et par son règne. Oui. Donc le règne est peut-être étant peut-être la manière de juger. Alors c'est sûr que pour tous ces gens-là, l'Église, mettons catholique et protestante dans son ensemble, ne croit pas au futur règne de Jésus, Jésus étant le roi sur Israël et sur les nations. Mmh. Alors de ce point de vue-là, si Jésus n'est pas le roi qui va venir régner, alors c'est vrai qu'il est subversif. Il y a des choses dans l'hébreu qu'on ne comprend pas et dans lesquelles on essaye de s'arranger en disant, voilà, effectivement, il y a une nouvelle religion, on ne sait pas... Il y a beaucoup de choses bancales. Alors que si on prend au contraire les choses qui tiennent à la collectivité dans l'hébreu, le peuple, pour le passé, c'est l'histoire d'Israël, pour le futur, c'est le règne, mais pour le présent, alors tout ce qui touche à la collectivité est mis de côté. Aujourd'hui, Dieu n'a pas de projet collectif, ni pour Israël, ni pour les nations. Comme si Dieu, dans cette expression, le temps des nations, qui commence, Ézéchiel 30, verset 3, le temps des nations commence avec le dernier roi d'Israël, de Juda, qui est Sédécias, et il finira quand Jérusalem sera environnée d'armées, en Luc 21-24, c'est-à-dire après, à Armageddon, il y a le temps des nations, le temps où finalement Dieu n'intervient pas dans le projet politique, comme si il voulait nous apprendre à nos dépens, hein, en faisant un peu n'importe quoi, la dictature, la royauté, la démocratie, et en voyant que ça ne marche pas. Alors je crois que c'est aussi dans cette perspective-là qu'il faut lire l'Épître aux Hébreux.
Oui, alors ensuite, il y a effectivement ceux qui sont appelés à recevoir de Dieu la sainteté. Alors, la sainteté, là, on a un peu reparlé, mais je crois que c'est tellement important qu'il faut peut-être le redire.
Voilà, donc c'est une expression, je ne sais pas si c'est celle à laquelle vous faites allusion, qu'on trouve en Hébreux 12 et au verset 14. Poursuivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et donc, la sainteté, c'est ce dont tout chrétien ou tout croyant a été revêtu dès l'instant où il croit que Dieu a fait ce qu'il fallait pour le réconcilier avec lui. Il a été sanctifié, il a été capable de se tenir dans la présence glorieuse de Dieu. C'est ça la sainteté. Étymologiquement, être saint, c'est être mis à part. Oui. Donc, le croyant a été sanctifié, il a été marqué du sceau de Dieu qui lui appartient, et de ce fait, il peut se tenir dans la présence glorieuse de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont saints. Et chaque enfant de Dieu a à poursuivre la sainteté, parce qu'il a, en quelque sorte, à tirer profit de cela. Comment est-ce qu'on déchoit de la sainteté? Comment est-ce qu'on y déroge? Eh bien, c'est en mentant, en étant méchant, en faisant des mauvaises choses, parce que manifestement, quand on fait des mauvaises choses, alors forcément, on s'éloigne de la présence de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, on ne peut pas continuer à faire des bonnes choses.
Voilà, oui. Alors, et puis, on trouve ensuite, plus loin, surtout des exhortations à la fidélité, des avertissements. Et il semble effectivement que on est appelé à être fidèle, on ne doit pas se laisser aller. Donc, il y a là, évidemment, des consignes qui sont données donc, aux chrétiens. Ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Et donc, un changement de vie donc, s'impose à ces gens qui sont les auditeurs de cette lettre, effectivement, et même déjà Paul le disait dans les en Romains 6,4, je crois, s'il parle le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Donc là, ça implique effectivement, du moins qu'on veut croire, on veut le salut, on veut être saint, disons, il faut venir changer de vie.
Voilà. Dans Hébreux, on peut souligner qu'il y a... on pourrait dire une partie doctrinale d'explication sur Ancienne et Nouvelle Alliance dans jusqu'au chapitre 10, au verset 18. Au verset 19, il dit « ayant donc une grande liberté hein, pour s'approcher de Dieu ». Et voilà une section pratique, mais qui va être en premier lieu marquée par cette galerie des gens de la foi du chapitre 11. Et dans, il y a 12 personnes ou catégories de personnes qui sont citées, au nombre de 5 et de 7, 5 et 7, 12, comme pour marquer ces géants de la foi qui ont précédé les judéo-chrétiens et qui sont là pour montrer qu'ils n'ont pas reçu les promesses, ils n'ont pas reçu ce qu'ils les avaient à faire, mais qu'ils ont montré que la foi était vraiment au centre de leur perspective. Alors à partir du chapitre 12, comme vous l'avez dit, il y a vraiment des exhortations pratiques. Le chapitre 12 parle de persécution. Verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Mmh. Hein, il y avait des persécutions, il y avait des difficultés. Et en 67, par exemple, à Rome, il y a Néron jusqu'en 68, et qui livre des chrétiens pour être brûlés par le feu. Mmh. Donc on voit ces persécutions, et les juifs font preuve également de beaucoup de méchanceté à l'égard des chrétiens, parce que la religion juive est une religion très considérée, même dans l'Empire romain. Alors donc, ces exhortations qui sont là au chapitre 12 et 13 sont des exhortations très pratiques pour que la foi soit le véritable moteur. Qu'est-ce que c'est que la foi ? C'est une relation simple avec Dieu, en faisant confiance et en disant, mais voilà, pour le résultat des courses, je te fais confiance, moi ce que je veux, c'est vivre droitement, et c'est vrai que les exhortations sont très pratiques.
Oui, ils reviennent souvent.
Ils reviennent souvent.
C'est répété à plusieurs endroits. Donc vous confirmez que l'acte de foi est plus important que l'acte religieux.
Exactement. Et que l'acte religieux, c'est-à-dire acte cultuel, oui, ou bien acte dans lequel l'enveloppe, hein, où on pourrait apparemment faire des bonnes choses, mais en fait, s'il manque la foi, alors il manque l'essentiel. Hein, par exemple, on pourrait penser qu'en fraudant, qu'on ait un intérêt quelque part, même si l'organisme ne se rend pas compte qu'on fraude. Mais Dieu s'en rend compte.
C'est certain, oui, oui. Voilà. Oui, alors il y a un autre exemple clair et net, c'est que c'est sur le chemin du temple, en allant à l'office, et je ne me suis pas réconcilié avec mon frère, il vaut mieux que je fasse demi-tour et que je me réconcilie.
Voilà.
Voilà, c'est ça.
Voilà, hein? Que je demande pardon, ou en tout cas que je règle ces choses avec Dieu.
Alors, on a parlé de sainteté, est-ce qu'il y a une différence entre perfection et sainteté ?
Oui, il y a deux mots différents. La sainteté... il y a ce mot qui n'est peut-être pas très connu du grand public, les hagiographes, pour parler des écritures saintes.
Oui.
Agios, c'est saint. Et donc, agios, c'est saint, et parfait, c'est telos. Et donc, en grec, le saint, c'est celui qui est mis à part. Voilà, je te donne la clé de chez moi, tu peux rentrer chez moi. Donc, tu peux rentrer dans le domaine de la mise à part. C'est ce que Dieu fait avec nous. Alors que le telos, le parfait, c'est tout simplement celui qui fait ce que Dieu lui demande. Telos, on trouve ça dans le télescope. Et le télescope permet de regarder tout ce qu'il y a entre de là où on se tient et très loin. Et être parfait, c'est faire cet ensemble de choses que Dieu nous demande, comme toutes les choses qui sont entre là et là où je regarde.
Là où vous regardez.
Voilà. Autrement dit, être parfait, c'est donner à tout le monde. Il ne faut pas croire le proverbe populaire qui dit que personne n'est parfait. Nous pouvons faire ce que Dieu nous demande, alors allons-y.
Donc, pour garder l'amour fraternel qui est un élément essentiel, mais vous les uns les autres, hein, comme je vous aimais, donc il faut suivre ce chemin de perfection en permanence, qui fait le symbole de la vie chrétienne, qui va être le témoignage aussi qu'on va porter à ceux qui ne sont pas croyants, par évidemment l'hospitalité, la sympathie, la pureté, l'honnêteté, et ainsi de suite, point de suspension.
Voilà.
Alors, les souffrances, il est question aussi souvent de souffrances subies par les hommes. Alors, il ne faut pas peut-être les prendre comme une punition du Seigneur ou par des corrections qui servent aux enfants, mais elles ne sont pas là uniquement comme signaux pour uniquement permettre à ces enfants du Père de se relever, de se redresser, de comprendre qu'ils ont mal fait et qu'il faut prendre un autre chemin.
Absolument. Alors je ferai une petite nuance qui est importante, mais qui reste quand même petite, c'est que Dieu ne punit jamais. Punir, c'est faire mal parce qu'on a mal fait. C'est ce qu'on faisait dans les écoles quand on mettait l'enfant au coin. On lui faisait mal.
Oui.
Voilà. Mais Dieu ne punit pas, Dieu apprend, en fait. Et Dieu discipline. Alors Dieu peut permettre qu'on ait mal dans les conséquences de ce qu'on a fait. Si on est allé trop vite, qu'on a un accident, on a mal. Mais Dieu ne nous punit pas. Hein, ce n'est pas une punition, c'est si par exemple on a beaucoup de belles choses et que quelqu'un nous cambriole, alors si les gens voient qu'on a beaucoup de belles choses, eh bien, ils sont tentés de nous cambrioler. Hein, oui, et d'accord. Donc Dieu ne nous punit pas, mais Dieu permet qu'on soit cambriolé, peut-être pour notre foi soit affermie. Et ça, c'est très bien.
Oui, l'exemple de la vitesse aussi est peut-être un exemple plus clair et bien plus précis. Effectivement, si vous avez un accident, c'est parce que vous avez effectivement donc pas respecté la vitesse sur la route et que vous avez mis votre propre vie en danger, mais pas celle des autres. Donc attention, cet accident doit vous permettre de réfléchir. Enfin, j'ose espérer.
Absolument.
Parce que l'histoire des biens, ça paraît plus difficile à comprendre. Hein. Alors, Jésus, c'est une autre expression que j'ai trouvée intéressante, Jésus est mort hors de la ville, c'est-à-dire de Jérusalem. Hein. Et nous sommes invités aussi à sortir de la ville, mais ça je mets ça entre guillemets, sortir de la ville. Il n'est pas question de sortir d'une ville probablement, mais sortir du monde charnel, du monde que l'on connaît aujourd'hui, d'une vie matérielle pour s'approcher d'une cité céleste, se mettre en marche comme Abraham et tous les exemples que nous avons eus. Alors, nous devons nous lever, c'est souvent ma devise, nous lever et se mettre et marcher. Alors, vers quoi ? Vers la cité future ?
La difficulté de la lettre aux Hébreux, c'est un peu toujours la même, c'est qu'on fait tout de suite une application pratique avant d'avoir défini le sens historique de ce qu'elle veut dire.
Oui, parce qu'on est d'aujourd'hui.
Parce que l'Épître est écrite aux judéo-chrétiens qui ont besoin de sortir de Jérusalem, de sortir de leur nationalité, d'abandonner pour l'instant le projet collectif et de comprendre que pour l'instant, ils restent dans le projet de l'Église, qui est un projet individuel, où Dieu demande à chaque individu de faire quelque chose. Et je ne crois pas qu'il y ait d'application pratique très très valable. Aujourd'hui, on peut effectivement parler des principes du monde, mais on n'est pas appelé à sortir du monde. Jésus, au contraire, dit « vous êtes dans le monde ». Mais vous n'êtes pas du monde. Donc ce principe de sortir du monde, pour moi, ne s'applique pas. Et je crois qu'il faut insister sur la réalité historique de ce que vivaient ces judéo-chrétiens, plutôt que sur l'application qui peut être faite aujourd'hui pour nous. Ou alors peut-être en n'attachant pas trop d'importance aux rites religieux, mais en étant vraiment dans la foi.
Vraiment toujours dans la foi. Alors, vers la fin, il y a toujours des avis qui sont donnés, des recommandations pour la vie de tous les jours, afin toujours de construire une vraie communauté. La communauté sera le signe de la fraternité des enfants de Dieu, nous sommes d'accord, et il faut vivre donc l'Évangile. Mais il semble qu'il n'est pas possible d'y arriver sans l'aide de Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Alors c'est à la fois encourageant. Je fais bien, c'est que Dieu est avec moi. Mais quand je n'y arrive pas, on peut avoir l'impression que, effectivement, Dieu nous abandonne. Alors, que faire, là ? Comment l'interpréter ?
Tout à fait comme vous l'avez dit. Par exemple, un des versets, j'aime bien les versets clés dans les lettres, et ça permet de résumer aussi.
Oui.
Hein, Hébreux 10, 38 nous dit « Le juste vivra de foi ». Et il dit au verset 39, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition. » Autrement dit, revenir au judaïsme parce qu'on voudrait vraiment que Jésus revienne comme Messie, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui croient la foi pour la conservation de l'âme. Autrement dit, c'est la foi, c'est la relation avec Dieu, et c'est le fait aussi de comprendre le bagage de la foi, l'ensemble des paroles, l'enseignement que Dieu nous a donné, c'est ça qui est vraiment efficace.
Oui. Alors, disons, ensuite, on arrive à la fin. Hein, ce sont les stations finales qui vous font dire que c'est effectivement peut-être une lettre. Effectivement, il y a un envoi en mission de chacun. Mais est-ce qu'on peut donc, vous allez me dire, non, c'est pour les judéo-chrétiens, mais est-ce que ce n'est pas aussi un envoi en mission, aujourd'hui encore, pour nous ?
Alors,
si vous allez me dire, oui, mais il faut bien comprendre que c'est pour des judéo-chrétiens.
Au chapitre 13, il est dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous a annoncé la parole de Dieu. Les conducteurs, ça peut être ceux dont il a parlé au chapitre 11, c'est-à-dire Abel, Enoch, Noé.
Oui, bien sûr.
Mais à ce compte-là, il va dire, ayant considéré leur conduite, imitez leur foi. Donc ça s'adresse aux judéo-chrétiens et aussi aux chrétiens. hein, puisqu'on peut se souvenir de ceux qui nous ont conduits.
Certainement.
Hein, saint Irénée, saint Augustin, imitant leur foi. Ensuite, il est dit, par exemple, il est dit, priez pour nous, verset 18. Bon, c'est bien. Et il est dit, je vous ai, au verset 22, je vous exhorte à supporter la parole d'exhortation. Voilà, donc des recommandations
oui.
qui sont aussi valables pour les judéo-chrétiens que pour les chrétiens.
De les écouter, de les comprendre et de les admettre, c'est ça que ça veut dire.
Voilà, et il conclut en disant que la grâce soit avec vous tous. Pour conclure, j'ai un peu aussi envie de dire que si on interrogeait 100 personnes dans la rue, je ne sais pas combien de personnes seraient des enfants de Dieu, mais je pense qu'il n'y en a pas énormément. Mais alors, si on demande à ces 100 personnes qui est-ce qui peut donner une définition de la grâce, je ne suis pas sûr qu'il y en ait deux.
Oui.
Parce que on n'est pas habitué à vraiment bien comprendre ces choses-là. La grâce, il y a deux sens pour ce mot-là. Et si on ne connaît pas ces sens-là, alors comment est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre, que la grâce soit avec vous tous? La grâce, premièrement, c'est le fait que Dieu ne nous impute plus ce qui nous condamnait, la faute. La grâce présidentielle, par exemple. Et le deuxième sens, c'est le fait que Dieu nous donne gratuitement la faveur qui ne se mérite pas. Alors avec la grâce présidentielle, il n'y a plus de culpabilité. Donc il n'y a plus de culpabilité sur mon passé, parce que Dieu a fait absolument ce qu'il fallait. C'est ce que dit le chapitre 10, que l'offrande de Jésus-Christ a été faite une fois pour toutes. Mais deuxièmement, c'est la faveur imméritée, autrement dit, quelqu'un qui est sous la grâce, il n'a pas peur.
Oui. Et est-ce que je peux vous poser quand même la question, quelle est l'actualité de l'Épître aux Hébreux?
C'est justement, pour nous les chrétiens, de vivre par la foi. C'est un développement qui est très très puissant sur la foi, sur la capacité à s'approcher de Dieu, et d'autre part sur le fait d'attendre le royaume. Puisqu'en fait, ces judéo-chrétiens avaient cette grande difficulté pour attendre le royaume, et étaient très tentés de revenir dans le judaïsme, ce qui posait de sérieux problèmes. Et par exemple, au chapitre 6, il leur dit, mais vous savez, le Saint-Esprit ne vous renouvellera pas à la repentance. Mais ça, il le dit dans un contexte de rite ou de culte juif. Hein? Et donc, si on ne le comprend pas dans ce sens-là, alors on ne le comprend pas du tout.